Oui, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains pour ce moment où nous voulons ouvrir ta parole, la méditer, mais surtout nous voulons être à ton écoute. Pour chacun, tu as des choses à nous dire et que ce, soit chacun, que ce matin, chacun, nous ayons une pensée, une chose qui vient de toi, qui transforme nos vies, qui transforme aussi notre intelligence et nos pensées. Nous voulons encore nous remettre entre tes mains pour cela. Prends soin encore des enfants avec leurs moniteurs ce matin. Veuille aussi eux les bénir richement. Au nom du Seigneur. Amen. Alors, nous voici donc arrivés bientôt à la moitié de l'année. Et déjà, depuis le 1er janvier, combien de choses se sont passées? Avec quelle intensité on a vécu ces derniers mois? Bientôt les vacances. Il y a le club d'été qui est dans ses derniers préparatifs. Et il me semble quand même que depuis quelques semaines, nous sommes amenés appelés à mener des combats spirituels et nos vies de prière sont exercées à prendre vraiment une toute autre dynamique. Et nous voyons vraiment l'importance de ce combat. Ce matin, Anne-Marie a fait écho à cela dans les petits détails. Mais il y a des combats. Alors, où va nous mener cette dynamique ? Et ensemble, avec les anciens, ça fait déjà plusieurs semaines que nous souhaitons entreprendre une nouvelle série de messages et qui a pour objet et sujet central l'introduction dans le pays de la promesse, ce pays ruisselant de lait et de miel. Que signifie pour nous ce pays de la promesse? Est-ce que c'est ce qui nous attend lorsque nous serons réunis dans l'éternité pour toujours avec notre Seigneur? Ou bien c'est déjà une réalité dans nos vies maintenant. Alors, conscients de nos faiblesses, nous demandons souvent à Dieu qu'il prenne la direction de nos vies, avec ce profond désir qu'il ait la première place. Et bien sûr, nous faisons vraiment ces prières avec crainte, car nous ne savons pas forcément ce à quoi cela nous engage. Mais certainement, mieux que nous, le Seigneur connaît ses craintes. Et vraiment, dans sa patience, par le Saint-Esprit, toujours, et puis aussi par les circonstances, peu à peu, il produit une transformation dans nos vies. Et qui passe par un renouvellement de notre intelligence, ou, d'autres traductions disent, notre façon de penser. Nous savons que toute la parole est inspirée de Dieu. Et que ces récits des peuples d'Israël dans le désert nous sont donnés pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Ça, c'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Et le fait de faire un parallèle entre nos vies en Christ et les différentes péripéties que le peuple a été amené à vivre avec Dieu est très édifiant pour nous. Ce qui est important pour nous, nous semble-t-il, c'est de considérer nos vies pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. Alors, on peut faire cet exercice chacun individuellement, et puis aussi, bien sûr, en assemblée, en église. Et ensuite, on peut faire aussi cet exercice selon nos propres jalons. Et finalement, ne pas être trop mécontent de notre situation, ou sinon carrément très critique. Alors, ce matin, bien sûr, ce n'est pas question de faire de l'autosatisfaction ou même à l'inverse de l'introspection qui aboutirait à de la culpabilité ou à des accusations, mais plutôt, une fois de plus, s'en remettre à Dieu, comme David l'a fait. Et juste, j'affiche ces versets du psaume 139. C'est David qui demande à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc le bon réflexe est une fois de plus de demander à Dieu de faire ce travail dans nos cœurs. Et justement, comme Jésus nous l'a promis, c'est l'œuvre de consolation que fait le Saint-Esprit dans chacune de nos vies de rachetés pour transformer nos pensées et les réajuster aussi selon sa vérité. Et comme David le demandait, que ce soit aussi notre prière, Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors s'il y a une chose que nous pouvons faire, c'est accepter que notre Dieu créateur prenne en main nos pensées et nos orientations. Alors, c'est d'un côté ce que nous demandons. Il y a quelque chose, la voix, le Saint-Esprit en nous qui demande ça. Et d'un autre côté, évidemment, cela n'est pas très agréable. Il y a notre voix qui combat cela. Donc ça ne se fait pas sans lutte, sans passage peut-être par le désert. Car cela correspond à laisser dépouiller notre nature humaine pour se faire vraiment challenger par le Saint-Esprit. Mais plus que tout, son œuvre en nous, c'est de nous donner un nouveau souffle, une nouvelle vie. Quand on examine la situation du peuple d'Israël, avant qu'il traverse le Jourdain, il est vraiment dans cette situation. Il est devant cet obstacle qui est difficile à franchir. Pourtant, ce n'est, pour ceux qui sont en Israël, ce n'est que le Jourdain, ça fait 10 mètres de large. Et il est devant ce Jourdain avec le souvenir frais des précédentes années difficiles dans le désert. Et il perçoit de plus en plus clairement ce pays ruisselant de lait de miel, car il peut le voir juste de l'autre côté du Jourdain. Et ce pays ruisselant de lait et de miel, c'est comme cela que l'Éternel l'avait présenté à Moïse lorsqu'il était présent dans le buisson ardent, alors que les Israélites étaient, eux, toujours esclaves en Égypte. Et ce pays promis en était devenu un mythe, tellement le cœur dur des Israélites et les difficultés du désert ont été un obstacle à la réalisation de cette promesse. Et devant le doute, quant à ce qu'ils doivent faire, l'Éternel permet ce moment de réflexion, alors qu'ils voient réellement l'accomplissement de cette promesse qui se profile. Ainsi, tout le livre du Deutéronome dans la Bible montre cette étape importante de l'histoire du peuple, où Dieu les arrête dans leur marche avant la traversée du Jourdain, et pour connaître vraiment leur cœur, pour éprouver leurs pensées, et tout ceci, vraiment, avant de les conduire sur les voies de l'éternité, qui est la conquête, justement, de ce pays. Alors, comme cette conquête pour Israël n'était pas la réunion avec le Messie, la rencontre, mais réellement la possession concrète des promesses de l'Éternel, nous sommes, nous aussi, appelés à mener une conquête, mais là qui est maintenant de l'ordre du domaine spirituel, pour prendre possession, réellement, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je rappelle encore ce verset, Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ce sont des bénédictions qui sont là, tout autour de nous. Et donc, tout comme Israël avait reçu en héritage ce pays ruisselant et de lait et de miel, avec plein de bénédictions matérielles, eh bien, nous aussi, nous avons pour héritage la vie en abondance, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, quelles sont ces bénédictions spirituelles? Un des gros problèmes du peuple, sur lequel je voudrais venir plus en détail ce matin, car c'est un gros problème pour nous aussi, j'en suis persuadé, c'est la bataille des pensées ou de nos pensées. On le voit tout au long du voyage dans le désert, où il y a bien souvent une opposition de pensée entre Moïse et le peuple. C'est Moïse qui avait reçu cette promesse de pays ruisselant de lait et de miel. Et lui, il était vraiment persuadé de son existence de ce pays. Mais une majorité du peuple le suivait sans s'être approprié personnellement cette promesse. Donc dans le livre des Nombres, principalement, on peut lire toutes sortes de récits où nous voyons le peuple qui râle parce qu'une fois ils n'ont pas de viande, ils regrettent même l'Égypte, où pourtant ils étaient esclaves, et il y en a même qui contestent l'authenticité de la promesse que Moïse a reçue. Alors, devant cela, Moïse envoie 12 espions pour explorer pendant 40 jours le pays de Canaan, et à leur retour, ils ont l'occasion de donner le témoignage vraiment réel de l'existence de ce pays et de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je vous propose de lire ce passage où ils rendent compte. Donc, c'est dans Nombre 13, verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et à la vérité, donc c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et là, en voici les fruits. Voilà, on les apporte. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Alors, c'est juste un extrait de ce compte-rendu. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi, il y a deux points sur lesquels à la fois Caleb et les 11 autres sont tous d'accord. C'est que c'est un pays où coule véritablement le lait et le miel. Mais il y a un mais, et ils sont d'accord aussi, c'est un pays où il y a des ennemis puissants. Ils ont même appris pendant ces 40 jours à connaître leur nom, leur lieu. Et dans cet épisode, eh bien, on voit très bien l'opposition entre deux courants de pensée, qui sont différents, et pourtant, le constat initial est exactement le même. Mis à part Caleb, qui a cette pensée de la victoire, les 11 autres pensent que c'est la défaite assurée. Alors, comme dans beaucoup d'autres épisodes, mais on peut voir ici la puissance des fausses pensées et quelles conséquences elles entraînent derrière elles. Dans le cas du peuple d'Israël, c'est que le pays ruisselant de lait et de miel est devenu un mythe inaccessible pour une génération et qu'ils ont dû attendre encore 40 années dans le désert pour enfin voir la réalité de cette promesse de leurs propres yeux. C'est ainsi que ces fausses pensées, qui peuvent paraître peut-être insignifiantes à premier abord, ont pris le contrôle et la destinée de tout un peuple. Alors pour nous, enfants de Dieu, nous faisons tous le même constat. Que les promesses de notre Seigneur sont vraies. Est-ce qu'elles sont vraies?
Oui.
Oui. Non, mais... Mais aussi, nous avons appris que l'ennemi est puissant, non? Et ça, malgré le fait qu'il a été vaincu par la croix. Nous sommes conscients de ces vérités et de la puissance de notre Dieu. Alors le Seigneur nous demande de collaborer avec lui. Dans ce combat qui est vraiment spirituel. Et ça, c'est pour l'accomplissement de son ministère, il est venu pour ça. Pourtant, ne nous arrive-t-il pas de laisser aller nos pensées dans le doute, le découragement, ou encore à d'autres rêveries? Et peu à peu, si nous ne mettons pas nos pensées à l'épreuve de la parole de Dieu et de ses promesses, ce sont les fausses pensées naturelles, inspirées par notre éducation, notre histoire, à l'environnement de ce monde qui est hostile à Dieu, qui nous détourne de son plan, avec des conséquences difficiles à vivre quelquefois. Et comme cela a été vraiment le cas, là, comme on l'a lu, pour le peuple d'Israël. En réalité, ces pensées qui peuvent paraître insignifiantes sont bien souvent utilisées par l'ennemi de nos âmes pour introduire ses propres pensées dans les nôtres, et cela pour propager des mensonges à la place des vérités de Dieu. Satan ne cherche pas à nous manipuler vraiment ouvertement, parce que pour que nous accomplissions sa volonté, parce qu'il n'en a pas la capacité. Il ne peut pas faire ça. Mais il sait que s'il arrive à contrôler nos pensées, en étant capable de mettre des fausses pensées dans notre esprit, il pourra contrôler peu à peu des domaines de notre vie. Et pourquoi pas toute notre vie? La particularité des fausses pensées, c'est qu'elles font partie de notre culture. Elles sont vraiment parfaitement intégrées, elles sont politiquement correctes. Et ça, malgré le fait qu'elles soient contraires au plan de Dieu et à la parole de Dieu. Le meilleur exemple de l'efficacité de cette stratégie date du moment de la chute, lorsque Ève est convaincue, malgré la parole de Dieu, que finalement c'est bon pour elle de manger du fruit défendu. C'est bien le diable qui soumet cette mauvaise idée. Et puis Ève intègre cette pensée comme étant finalement recevable, Et en finalité, c'est totalement contraire à la volonté de Dieu. Alors, combien de fois, pour nous donner bonne conscience, nous utilisons dans nos argumentations des pensées que nous jugeons raisonnables et correctes, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu? Moi, je donne un exemple. Lorsque je suis pressé, et ça m'arrive malheureusement souvent, j'ai tout plein d'arguments qui m'autorisent à dépasser les limitations de vitesse, alors que je sais très bien que ce n'est pas autorisé. Et des exemples comme ça, malheureusement, j'en ai d'autres. Finalement, toutes ces pensées fausses qui vont et qui viennent rapidement sont des moyens de défense que j'ai élaborés d'après mon vécu, et où dans l'instant, je ne veux pas que Dieu y vienne et mette de l'ordre. Néanmoins, l'œuvre incessante du Saint-Esprit en moi est de renouveler mon intelligence, ou ses pensées, pour les réajuster vraiment selon sa vérité. Je voudrais maintenant vous présenter ce verset, deux versets du 2 Corinthiens 10, verset 4, parce que c'est une clé. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette idée d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence est la clé, vraiment, pour que les mécanismes de défense, ces forteresses que nous érigeons pour se protéger, elles soient renversées. Ce verset précise que ce combat ne se situe pas au niveau du charnel, mais bien au niveau du spirituel. Comme si dans la grande majorité des cas, nos pensées seraient manipulées directement ou indirectement par le diable. Alors cela ne nous déresponsabilise surtout pas, car que faisons-nous de ces pensées quand elles se présentent? Est-ce que je les rejette ou bien est-ce qu'elles peuvent trouver un écho en moi, dans la situation peut-être pénible dans laquelle je me trouve? Le diable ne peut certainement pas connaître nos pensées. Mais en revanche, il peut voir par nos vies nos points faibles et suggérer de temps en temps des pensées qui nous feraient tomber sur ces points précisément. Moi, je ne pense pas qu'on puisse éviter ou être libéré de ces mauvaises pensées. Car tant que l'ennemi de nos âmes est actif, il a cette capacité de mettre ses pensées dans les nôtres. C'est ce qu'il fait avec Judas, avec les conséquences aussi que cela a entraînées. Mais en revanche, on a parlé ce matin de l'esclavage, mais on peut être libéré. On peut être libéré de cette obligation d'écouter ses mauvaises pensées. Et c'est bien à ce niveau-là que débute le combat spirituel dans chacune de nos vies. Que ce soit pour les mauvaises pensées ou les convoitises, elles ne caractérisent pas le péché en elles-mêmes. Ça, c'est un peu Jacques qui explique ça. Mais ce sont les conséquences qu'elles entraînent qui deviennent des péchés. Comme cela a été le cas pour les 12 représentants des tribus d'Israël, la désobéissance au plan de Dieu est apparue lorsque la décision a été prise de ne pas conquérir, de conquérir Canaan, mais pas quand cette idée est apparue. Ces versets nous rappellent une fois de plus donc la puissance des armes que nous avons à disposition pour résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça, c'est Éphésiens 6 qui nous dit ça dans l'introduction à la liste de l'armure du chrétien. Au-delà de cette résistance, le renouvellement de notre intelligence qui est entamé par le Saint-Esprit est la clé pour que les raisonnements faussés qui succèdent peut-être aux mauvaises pensées, tous ces raisonnements soient renversés. Ainsi, nous pouvons être transformés parce que nous avons la pensée de Christ en nous. C'est ce qui nous rend capables d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Le Seigneur a bien promis à nous, ses disciples, le Saint-Esprit. Il nous a même promis que nous ferons de plus grandes choses que lui. Il nous a bien dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Il nous a même dit que nous ne sommes pas de ce monde, comme lui n'était pas de ce monde. L'apôtre Paul proclame bien haut que nous sommes une nouvelle nature et que nos vies Notre vie, nos vies sont cachées avec le Christ en Dieu. Il y a plein d'affirmations. On l'a chanté ce matin, des victoires. Il y a plein de promesses comme ça qui sont là dans la parole. Et ces quelques points attestent vraiment des vérités vraiment que nous entendons de la parole de Dieu. Et à l'opposé, nous entendons aussi des pensées, ces pensées du père du mensonge qui nous accusent, qui nous découragent, ou encore qui nous suggèrent toutes sortes de convoitises. Et donc toutes ces pensées sont à passer au crible de l'enseignement de Jésus. Nous savons qu'il est la vérité. Et donc, grâce à ce jalon, tout raisonnement ou hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu est à renverser littéralement dans nos vies. Et là encore, on touche du doigt l'importance de connaître Dieu. Ce Dieu qui est au-dessus de tout, comme on l'a chanté. De s'approprier ses promesses de victoire dans nos vies et de réaliser quelle puissance nous avons en nous par le Saint-Esprit. Ces points, Caleb, de la tribu de Juda, les avait saisis par la foi. Et il désirait plus que tout posséder ce pays de la promesse. Et donc, la question, elle se pose maintenant un peu à nous. Comment j'aurais orienté les pensées dans cette même situation? Maintenant, qu'est-ce que je pense de ces promesses de victoire dans ma vie aujourd'hui? Ce matin, en regardant à quelle place nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous avons loué ce matin, on s'est rappelé quelle œuvre, quelle grâce le Seigneur nous a faite, quelle œuvre de libération il a fait pour nous. Demain, peut-être, on sera assailli de doutes, de difficultés, de pensées négatives. Notre statut d'enfant de Dieu aurait changé en une nuit? Non, prenons maintenant autorité sur nos vies. Soyons vigilants en nos pensées et n'oublions pas que nous ne pouvons pas les combattre par notre seule volonté. Parce que c'est un combat spirituel, c'est pas un combat naturel. Et c'est un combat spirituel avec le père du mensonge comme ennemi. Et parmi les armes du chrétien, il y a le casque du salut. Et c'est lui qui protège l'endroit de notre corps où vraiment là, on remporte où on perd les victoires et les combats spirituels. C'est seul le salut qui a été acquis par notre Seigneur grâce à sa victoire à la croix qui nous délivre du pouvoir des ténèbres et nous garantit que le diable vraiment n'a aucun droit sur nous. Alors on est revêtu de cette victoire de Christ. Et on peut, grâce à ça, et grâce à ce statut d'enfant de Dieu, on peut prendre autorité. On peut ouvrir notre bouche, proclamer comme on l'a fait dans le chant, ou quand on est vraiment dans le conscient de ce combat que nous menons, on peut dire au nom du Seigneur, au nom de Jésus notre Seigneur, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais rien ne nous empêche de nous adresser à Satan avec le statut d'enfant de Dieu que nous sommes, parce qu'il a été vaincu. Et que nous avons un roi, un seigneur qui est au-dessus de tout. Et ça, c'est le Seigneur qui a entamé ces paroles. C'est la parole de Dieu. Et ces paroles du Seigneur peuvent être les nôtres lorsque nous ressentons dans nos pensées cette oppression ou des mensonges se profiler. Moi, je vous encourage à proclamer à haute voix les vérités de la parole. Car chacune de ces paroles apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Et non seulement elles apportent la lumière, mais la lumière, on sait très bien qu'elle chasse les ténèbres. À l'image de ce peuple, donc, que l'Éternel arrête à la sortie du désert, avant la conquête, arrêtons-nous un instant et laissons-nous sonder par notre Dieu, pour regarder sur quelle voie nous sommes. Quelles sont nos pensées? Et dans le but d'être tous conduits sur la voie de l'éternité, avec toutes les bénédictions spirituelles qui en découle. Et la période des vacances qui approche est propice à cela. Nous avons peut-être des pensées fausses qui sont en nous vraiment solidement ancrées. Et peut-être même ces pensées fausses, on les ignore. On pense qu'elles sont conformes à la parole de Dieu. Comme David, vraiment, restons modestes. David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie. Quel jalon on a, on ne sait pas des fois. Remettons-nous dans cette disposition de cœur, dans cette modestie, dans cette humilité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc c'est sur cette bonne voie que nous voulons continuer à avancer tous ensemble, dynamisés par cette vie abondante que le Seigneur nous donne, dynamisés par cette puissance du Saint-Esprit qui nous est réservée maintenant. Alors ce matin, on a parlé de cette paix, on a parlé de plein de choses ce matin dans la louange. Et avant le culte, Anne-Marie me parlait de cette paix, de ce verset de Philippiens. Je ne voulais pas être trop long, mais malheureusement. Mais je veux quand même le lire ce passage, parce que c'est Philippiens 4, verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc voilà, soyons modestes, ne cherchons pas à combattre par nos propres volontés, notre propre force. On n'a pas assez de volonté pour cela. Mais comme David, que lui jette un regard sur nous, sur nos vies. Et cette paix de Dieu vraiment pourra surpasser toute cette intelligence, tout raisonnement. Et la suite de ce verset, au reste, frères, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors quand on lit ça, on a l'impression que ouais, ça tout doit venir de nous là. Que ouais, vous n'avez qu'à faire ça. Et c'est comme ça que peut-être qu'on peut le lire. Mais c'est le témoignage, ça, que le Saint-Esprit fait. Il sait que lui, c'est ce qu'il veut dans nos vies que nous fassions. Il veut que nos pensées soient occupées à ces choses-là. Et c'est cette œuvre qu'il fait en nous. Alors, encore et encore, moi, je vous encourage à ne pas hésiter à ouvrir vos bouches. Mais aussi de connaître à la fois la parole de Dieu, de connaître ses vérités, de les proclamer haut et fort, que ce soit par le chant, en église, que ce soit seul dans votre chambre, mais qu'on proclame ces paroles. Et quand on est dans le doute, ou dans le questionnement, ou dans la tentation, ou dans la critique, ou dans le négatif, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Donc, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça, nous pouvons lui dire sans relâche. Et vous verrez que c'est une façon de résister, et là, le diable s'enfuira l'un de nous. Voilà, je voudrais encore finir ce moment par la prière. Oui, Père, nous sommes conscients que nous sommes la cible de l'ennemi. Et il y a des temps où on le reçoit plus que d'autres. Et tout cela n'a que conséquence, parce que grâce à ce que tu nous fais vivre, nous rapprocher de toi, de nous attacher à ta parole, de regarder toutes ces promesses, de tous ces encouragements que nous recevons de ta part. Et ce matin, nous voulons encore proclamer haut et fort que tu es au-dessus de tout, que tu es ce Dieu victorieux, tu es ce Seigneur de gloire, tu es toi, Seigneur, celui qui a mis tous tes ennemis sous ton marchepied. Et nous voulons encore vraiment proclamer, nous voulons que ce matin en Église, que chacune dans nos vies, nous puissions partir pour cette semaine, confiant dans ta puissance et ta force. Et nous savons que très vite, l'ennemi sera à l'œuvre pour essayer de nous décourager, de nous faire croire que toutes ces paroles sont des mensonges. Mais nous savons que c'est lui le menteur. Et nous voulons te prier, vraiment Seigneur, en ton nom puissant, vraiment que tu nous protèges, que tu nous donnes d'être alertés par cela, par le Saint-Esprit en nous, pour que nous puissions, quand c'est le moment, tenir ferme, résister, et puis dire à l'ennemi qu'il s'en aille. Oui, merci de cette force, de ces armes que tu mets à disposition. Et nous voulons encore apprendre à les manier ce matin, encore pendant cette semaine, apprendre à éprouver ces choses-là, ta parole. Et puis nous voulons vraiment encore nous remettre entre tes mains pour que dans chacune de nos vies, comme David l'a fait, ben que tu éprouves nos pensées, que tu sondes notre cœur, que tu regardes si nous ne sommes pas sur une mauvaise voie et puis que nous conduises vraiment sur cette voie de l'éternité. Amen.
Bonjour, je vous invite à partager les annonces et le programme de la semaine. Mardi, réunion de prière. Pierre nous a parlé du combat. C'est entre autres à la réunion de prière que le combat se passe. Alors moi je vous invite à vraiment venir participer, à vous engager. C'est important pour chacun de nous, vraiment pour chacun en particulier, puis pour l'Église de façon plus générale. Jeudi, il y a la dernière rencontre de la pastorale. Alors c'est un moment un petit peu sympathique parce que on partage ce moment aussi avec nos conjoints et puis on partage un repas ensemble. Alors vous pourrez aussi penser à nous. C'est toujours des moments très riches. Samedi, groupe de jeunes. L'horaire, on ne sait pas encore. Les jeunes seront tenus au courant. Dimanche, il y a plein de choses. Tout d'abord, il y a un culte de témoignage qui sera suivi par un repas qu'on va partager en commun. Alors moi, je vous invite à venir avec un pique-nique parce qu'on ne sera peut-être pas très très nombreux dimanche prochain. Ce sera peut-être plus facile à gérer avec un pique-nique. Parce que dimanche prochain, c'est aussi le dimanche de sortie des écoles du dimanche. Donc les écoles du dimanche se retrouvent sur le parking et partent à 10h30 pour un retour prévu à 16h30. Par contre, les moniteurs ont besoin d'une autorisation parentale pour chaque enfant. Donc si vous avez deux enfants, deux autorisations. Si vous en avez trois, trois autorisations. Oui, voilà. Donc ce qui est important, c'est de remplir la partie du bas et de la remettre une à chacun de vos enfants pour dimanche prochain. Concernant la suite des annonces, demain dans trois semaines, c'est déjà le club d'été. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des réponses par rapport aux besoins, aux derniers besoins qu'il y avait. Il y avait besoin de personnes pour le nettoyage. C'est important que ces locaux soient nettoyés tous les soirs pour qu'ils soient propres de nouveau le lendemain matin, puisque ça dure une semaine. Il y avait aussi besoin d'un moniteur et de deux aides-moniteurs. Si des personnes ont envie de s'engager, contactez Emmanuel et Rebecca. C'est important qu'il y ait quand même une équipe au complet quand ça commence. On veut aussi remettre ce temps de semaine dans la prière. C'est important que ce temps soit vraiment préparé et que la victoire soit aussi pour ce sujet. Continuons de penser à la famille Morand. Jean-Michel est là. On pense à vous, Jean-Michel. On prie pour vous. Moi, je vous invite à continuer. Vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait mis en place une chaîne de prière. Moi, je vous invite à la continuer. C'est important de maintenir ce sujet, de continuer à intercéder afin qu'une victoire puisse venir. Pensons aussi aux enfants Morand. Un dernier petit clin d'œil. Je ne sais pas si certains d'entre nous, je pense, se rappellent. Il y a quelques années, une personne était passée dans la région pour faire un stage au CERN et puis avait rencontré le Seigneur dans le Pays de Gex. Il s'agit de Laza. Alors Brian est resté en contact avec Laza. Il va bien, entre-temps il s'est marié, il est aux États-Unis, il continue ses études et il pense encore à nous, au temps qu'il a passé par ici. Alors nous aussi, on veut aussi penser à lui. Je vous invite à vous lever. Alors figurez-vous que j'avais prévu de lire Philippiens 4:7. Alors moi, je vous invite à lire les quelques versets qui précèdent. Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.